Nous sommes Daniel et Philibert, cofondateurs des Business of Bouffe, studio des stratégies et développement.
Nous sommes tous les deux passionnés par la bonne bouffe. Daniel est brésilien et vit à Paris depuis plus de 10 ans. Il est amateur de vin nature et adore cuisiner.
Philibert est savoyard et un ambassadeur de son terroir. Nos parcours corporate et start-up ont aiguisé notre sens business, sans jamais perdre de vue notre passion pour la bouffe.
Notre activité nous amène à rencontrer et accompagner les dirigeants et entrepreneurs du secteur food. Ainsi, nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast Business of Bouffe.
Nous parlons bouffe, mais avec un angle business. Bonjour, nous sommes aujourd'hui chez Esovrac avec Célia Henneson. Je suis comme d'habitude avec mon associé et ambassadeur de la Savoie, Philibert Chambre. Bonjour Philibert.
Bonjour Daniel.
Nous sommes aujourd'hui avec Célia Henneson, donc cofondatrice et directrice générale de Esovrac. Célia, est-ce que tu pourrais te présenter en deux mots s'il te plaît?
Bonjour, donc je suis Célia Henneson, j'ai 35 ans. J'ai cofondé et je dirige effectivement l'association Esovrac. Je vis à Paris et avant j'avais une autre vie.
Ah, ben tu vas nous raconter tout ça. Oui, en fait, ça tombe bien parce que notre question rituelle au début du podcast, c'est pourquoi la bouffe ? Et dans ton cas, c'est pourquoi les vracs ? Comment tu es arrivé là ?
Alors, pourquoi la bouffe ? Ça, c'est une grande histoire. Ça fait vraiment partie des choses que j'ai toujours aimées. Et quand on dit pourquoi la bouffe et qu'on adore ça, on s'intéresse aux produits. Et quand on s'intéresse aux produits, on s'intéresse aussi à la manière dont ils ont été produits, dont la manière dont ils sont distribués.
Ouais.
Et donc là, ça nous amène au vrac. Et il y a quelques années, j'ai pris conscience que les produits que j'affectionnais particulièrement n'étaient pas forcément distribués en vrac.
Ouais.
Donc, je ne pouvais pas choisir librement la quantité.
Ouais.
Donc pour correspondre à mes besoins. Et en plus, ils étaient pré-emballés. Donc, ils généraient des déchets. Et donc, il y a quelques années, c'était précisément en 2013, j'ai eu l'idée de monter une épicerie vrac, même voire plusieurs. J'avais même l'idée d'en ouvrir, pourquoi pas, plusieurs à Paris. Et avec une amie, on a commencé à s'intéresser à ce modèle-là. Donc, on avait épluché, on s'est dit, voilà, quels articles j'achète, comment je pourrais trouver leur équivalent non pré-emballé. Et on a commencé à monter un business plan, à faire des enquêtes terrain, etc. Tout ça à peu près sur une bonne année et demie.
Ouais.
Et pendant nos recherches, on s'est confronté au vide,
ouais.
C'est-à-dire à rien.
Parce qu'en 2013, il y avait peu de choses, peu de producteurs qui fournissaient des solutions en vrac, c'est ça ?
C'est ça, c'est-à-dire qu'on allait voir, déjà le vrac dans les magasins, c'était des rayons vrac qui étaient sur des produits assez limités.
Mm-hmm.
Du coup, voilà, les fournisseurs étaient assez restreints.
Ouais.
Quand on voulait en démarcher des nouveaux, ils nous regardaient avec des grands yeux, ils disaient « mais le vrac, c'est quoi ? C'est quoi ce débouché ? Non, moi je ne fais pas ça, je ne vends pas mes produits en vrac. » Quand on essaie de regarder l'aspect législatif, parce que le premier point, c'est de se dire « j'ouvre un magasin de vrac, est-ce que j'ai le droit de vendre ce produit-là en vrac. »
Sans emballage, sans étiquette.
Voilà.
Sans
ou dans ce cas-là, si j'ai le droit, qu'est-ce que je dois faire ? Quelles sont les mentions légales que je peux afficher ? Ou pas ? Comment le présenter ? Donc, en fait, on avait tout un tas de questions sur l'aspect législatif, l'aspect formation, du coup, métier. Des formations métiers de commerçant, il y en a, mais des formations métiers de commerçant vrac, il n'y en avait pas.
Mmh.
Et le métier du commerçant vrac, c'est vraiment différent du métier traditionnel, puisqu'en fait, on ne déballe pas un produit qu'on met en rayon, mais on déballe des contenants qui arrivent en magasin, des produits de grande quantité qu'on va transvaser. Donc, il y a beaucoup de manutention, etc. Donc, c'est vraiment d'autres savoir-faire. Et il y avait aussi le volet financier. C'est-à-dire qu'on se disait, on veut ouvrir une épicerie, il faut des sous.
Ça coûte un peu d'argent.
Ça coûte un peu d'argent, encore plus à Paris. Et là, quand on allait voir des structures d'aide, de financement, ils nous regardaient avec des yeux encore plus grands en disant, mais vous êtes sûr que vous voulez ouvrir une épicerie vrac ? Mais c'est quoi ? Va y avoir des clients ? Est-ce que ça a vraiment du sens ? Ils ne comprenaient pas du tout le projet. Donc en fait, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que c'était le parcours du combattant, puisqu'il n'y avait rien. Et d'un autre point de vue, personnellement, je m'étais rendu compte que j'avais envie de changer de vie, C'était là, ce qui m'avait amené dans la démarche d'ouvrir une épicerie vrac, c'est de voilà, mais que je n'avais pas forcément envie d'être enfermée dans une boutique.
Parce que toi, tu bossais dans quoi avant justement, avant 2013, t'as quel profil ?
J'étais alors moi j'ai fait des études d'économie à Dauphine. Voilà, j'ai fait tout mon cursus là-bas. J'ai ensuite rejoint un cabinet de conseil en stratégie où j'ai travaillé dans différentes industries, principalement énergie et beaucoup à l'étranger.
D'accord.
Et ensuite j'ai travaillé 6 ans dans un groupe de mobilier urbain américain.
D'accord.
Qui s'appelle le Clear Channel, voilà, où j'ai occupé, je travaillais à la direction générale et après j'ai monté le département innovation.
D'accord.
Voilà, donc c'était chouette, c'était des très très belles expériences, mais je ne retrouvais plus voilà, mon compte, j'avais envie de mettre mon énergie pour faire avancer les choses dans le sens où je pensais qu'elles devaient avancer.
Quelque chose qui porte plus de sens pour toi
Oui, puis surtout répondre à une aberration de la consommation qu'on avait, et je me suis dit, si moi je pense comme ça, je suis sûre que d'autres personnes le pensent. Et c'est comme ça que, avec mon amie Sonia, vit à Chambéry.
Ah, une Savoyarde, on la salue. C'est...
Voilà. Fil conducteur. On s'était dit qu'on voulait monter une épicerie vrac. Voilà.
Juste une question, parce que tu parles de 2013, donc quand tu démarres ces projets de l'épicerie vrac, et finalement, ce qu'on a vu, c'est que Réseau Vrac existe depuis 2016. Donc il y a eu quand même 3 ans. Qu'est-ce qui se passe pendant cette période-là?
Alors, moi, j'ai quitté mon emploi chez Clear Channel en 2015.
Ouais.
Donc, en fait, toute la phase de réflexion du projet, je l'ai fait en poste. Donc, c'était en parallèle. Donc, je n'étais pas à temps complet. Et ensuite, en 2015, je me suis mariée. Donc, ça, c'était un grand, grand projet de vie.
Mmh.
Et à ce moment-là, au moment où je me suis mariée, coïncidait le moment d'ouvrir ou pas cette épicerie. Et moi, j'avais 30 ans. À ce moment-là, et aussi mon projet de vie, en plus de mon mariage, c'était de potentiellement avoir des enfants.
Mmh.
Et la réalité, c'était que ouvrir une épicerie vrac j'allais forcément travailler beaucoup.
C'est un investissement personnel très fort.
Très
c'est 70 heures par semaine. C'est à être à contre-courant d'une vie de famille, avec ses amis. Donc, ça commençait déjà à être...
C'est pas la meilleure période, en effet, pour lancer ce genre de projet.
Ouais. Voilà, ça. Et le fait que j'avais pas, en fait, envie d'être enfermée dans une boutique.
Ouais.
Ça, je l'avais réalisé au moment où je construisais le projet.
En préparant le projet, ouais, d'accord. Ouais.
C'est ça. Donc, je me suis dit, c'est un formidable projet, mais en fait, c'est pas pour moi.
C'est pas cette exécution-là dans laquelle tu souhaites... te réaliser.
Très bien dit. je vais le reprendre pour les prochaines explications. C'était pas dans cette exécution-là. Voilà. Donc, je me suis mariée. Mon mari, c'est en même temps que moi, est parti aussi de sa boîte.
Ouais,
voilà, tous les deux, on a négocié nos départs. Et on avait le projet de partir en Amérique latine.
Ça me parle.
Voilà. Au Chili. Voilà,
Daniel.
On voulait voyager à travers le Chili dans un combi car voilà.
Sympa comme projet.
Voilà, pendant 6 mois. Donc c'était le projet qu'on avait et c'est pour ça qu'on avait du coup négocié nos départs. Voilà.
Ouais.
Donc mon mari, lui, avait pour objectif, qu'il travaillait avant dans une agence web, d'être à son compte et du coup de continuer à faire du développement et de l'intégration de sites web de son côté.
Mmh.
Et moi, de me laisser le temps de la réflexion, de savoir ce que j'avais envie de faire. Parce que je me rendais compte, quand j'avais justement réfléchi à ce projet en parallèle de mon métier, que j'avais la tête prise en fait dans mon travail actuel, qui m'empêchait d'être pleinement disponible pour réfléchir à ce que j'avais vraiment envie de faire.
Il vaut mieux se mettre à temps plein pour développer
c'est
un projet,
ça.
C'est clair. C'est ce qu'on trouve beaucoup dans les profils qu'on interroge et avec qui on a la chance de faire des podcasts. Ouais.
Donc du coup, voilà, le système français fait que je pouvais, en ayant cotisé au chômage, du coup, bénéficier de cette période-là pour penser, mettre à profit cette période pour monter quelque chose. Donc ça, c'était la stratégie.
Ouais. Mais comment ça s'est passé en vrai?
Voilà. Donc, on s'est mariés en avril 2015. On a négocié nos départs. En septembre 2015, on était tous les deux disponibles.
Mmh.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, donc on était censé préparer notre voyage de noces. Et à ce moment-là, j'ai été chassée pour un boulot qui était en fait à mi-chemin entre le vrac et ce que je faisais avant. Donc, je me suis dit, OK, intéressant sur le papier.
Ça mérite une réflexion.
Ça mérite une réflexion. Et après plusieurs tours d'entretien, ça n'a pas abouti. Ouais.
C'était quoi? Qu'est-ce qui peut être entre les vracs et les...
On va dire que ça traitait de la problématique des déchets.
D'accord.
Voilà. Donc moi, j'étais zéro déchet, mais c'était avant. Donc ça ne m'emballait pas, sans faire de genoux. plus que ça, mais comme tout travail, il y a toujours des choses intéressantes. Et voilà. Et donc, ça ne s'est pas fait. Sauf qu'entre-temps, j'avais mis de côté mon projet de
voyage.
Je suis très entière, donc je vais à fond. Hein, j'arrive pas à faire plusieurs choses à la fois. Donc, du coup, quand cette opportunité ne s'est pas faite, mon mari, lui, avait déjà pris des missions clients. Donc, lui, il était déjà embarqué, il avait déjà créé sa boîte, il avait déjà commencé. Et moi, je n'avais rien. Donc, en gros, la réalité, c'était que j'ai négocié un départ pour un projet de noces de 6 mois pour potentiellement un projet de boulot et ou un autre projet à la clé, et je n'avais rien. Et je me suis retrouvée en septembre 2015 avec le chômage à Paris, sans voyage de noces et sans projet professionnel. Et là, ça a été vraiment dur. C'est-à-dire, je me suis dit, je suis quelqu'un de plutôt averse au risque. Je prépare tout ce que je fais. Et là, je me rends compte que j'avais négocié un départ pour rien. Et donc, c'était un peu compliqué. Donc, ça m'a permis de prendre du temps pour réfléchir. Je me suis dit, pourquoi pas changer de ville aussi, parce que j'adore la montagne. Donc, j'avais regardé s'il n'y avait même pas des projets dans ce secteur-là, pourquoi pas l'hôtellerie aussi, la restauration, la bouffe, la montagne. C'était pas forcément évident. Et puis, en fait, j'avais semé des petites graines quand je m'intéressais au monde du vrac. Ouais,
c'est le vrac qui revient, apparemment.
Parce que tu as passé quand même 2 ans à préparer cette épicerie qui n'a jamais eu lieu.
En tout cas, à me plonger dans ce secteur-là, rencontrer des acteurs, etc.
Alors, comment il revient, le vrac, justement?
En janvier 2016.
D'accord, en janvier.
En janvier 2016, je reçois un email de Zero Waste France, parce que je suivais leur actualité, qui avait animé depuis des groupes de travail autour du vrac.
Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est que Zero Waste France?
Alors, Zero Waste France, c'est une ONG.
Ouais, c'est une ONG, ouais.
Voilà, c'est une ONG donc citoyenne qui vise à promouvoir la réduction de toute forme de gaspillage pour tendre vers le zéro déchet. Voilà. Et donc, ils impulsent beaucoup de choses dans les territoires, que ce soit d'un point de vue citoyen ou collectivité. Et donc, Zero Waste avait à l'époque une chargée de relations avec les entrepreneurs zéro déchet, qui s'appelle Laura Cagnot, et qui animait, du coup, sur son temps de travail, elle a animé peut-être 2 ou 3 groupes de travail autour du vrac pour aider les porteurs de projets qu'ils souhaitaient à concrétiser leur projet d'épicerie vrac. Et ça commençait à prendre beaucoup d'ampleur, beaucoup de temps, et elle n'avait plus ce temps-là à accorder, d'une part. Et d'autre part, il s'agissait de projets professionnels. Donc, on était plus dans un domaine pro que citoyen. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lancé un appel à candidats pour avoir envie de monter une structure à part entière pour accompagner ces porteurs de projets, entre autres.
Donc, c'est Zero Waste qui a impulsé,
qui a impulsé la création de l'association Réseau Vrac. Et donc, donc on s'est rencontrés avec Laura Cagnot, avec Didier Andreita aussi, qui est le cofondateur de My Retail Box.
Et qui a fait créé Day by Day après.
Qui a créé Day by Day. Et la rencontre s'est faite et ça a bien fonctionné. Et moi, j'ai été disponible immédiatement. J'avais le chômage, donc j'avais une assurance de pouvoir monter un projet qui n'avait aucun budget, aucune assise financière. Et j'avais la chance d'avoir mon mari qui faisait des sites web. Parce que la puissance aujourd'hui de Réseau Vrac, elle s'assit sur le site web et toute la structure, l'infrastructure qu'on a montée.
C'est ton mari qui l'a fait, les sites web? Je ne veux pas faire la pub pour lui, mais il a très bien fait les sites web.
Merci.
Moi, j'ai retrouvé toutes les infos. L'UX, elle est top. C'est vraiment très chouette.
Voilà. Et donc, en fait, et puis je le dis, parce que je ne dis pas assez, mais c'est grâce à mon mari, Thomas, que je me suis lancée dans l'aventure. Parce que je l'ai dit, je suis averse au risque, il ne faut pas savoir. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a un projet de créer une association, mais il n'y avait pas de budget, il n'y avait pas d'emploi, il n'y avait pas de poste à la clé. Donc, c'était quelque part un peu qui tout double. Mm. Fallait créer le modèle économique, les services, fallait tout créer.
Bien sûr, à partir de zéro, c'est de l'entrepreneuriat pur.
Pur et sûr, oui. Voilà, sous forme associative, mais c'est oui. Réseauvrac, c'est une start-up aujourd'hui. Alors moi, je dis, c'est une start-up.
Et nous, on a regardé, mais on n'a pas trouvé, parce que toi, tu es cofondatrice des Réseauvrac. Donc, moi, j'ai passé des heures à chercher
les autres
et je n'ai rien vu. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne et c'est qui les autres cofondateurs?
Alors, les autres cofondateurs se trouvent au sein du conseil d'administration.
D'accord.
Donc, on avait Didier, on avait évidemment Zero Waste qui a impulsé. Didier, Andretta, Johanna Lemot, qui est notre présidente.
D'accord.
Qui a l'épicerie Au Bocal à Nantes.
D'accord.
Ludvina.
Donc, ça, ces gens-là, ils font partie de l'aventure dès le début.
Ils font partie de l'aventure, c'est-à-dire que c'était des personnes qui étaient fondatrices dans le sens où il faut créer une instance
pour accompagner.
Mmh. Cependant, nous, on a déjà nos métiers.
Ouais.
On ne va pas pouvoir piloter cette instance.
Ils n'ont pas assez de temps à allouer, à donner.
Donc, en fait, il y a une véritable équipe opérationnelle qui fait tout.
Mm-hmm.
Et un conseil d'administration qui soutient, qui conseille dans les grandes orientations de l'association.
Vous réunissez avec quelle fréquence, avec les conseils?
Tous les trimestres, on a un séminaire annuel où on se rencontre. Ouais. On passe une journée ou deux ensemble. Mm-hmm. Et après, c'est des temps d'échange trimestriels. Et après, des one-to-one avec... au besoin avec certains membres du conseil d'administration pour avancer plus vite sur les projets.
Et au départ, en fait, tu étais la seule personne à porter les projets à temps plein opérationnellement.
Pendant 2 ans, j'étais toute seule à tout faire, avec mon mari à côté, qui faisait d'autres choses, mais qui a aidé à bâtir le site et donc toute la logique. Ouais.
Et ça, c'est donc c'est une association. Toi, t'es salarié de l'association, peut-être maintenant, mais pas à l'époque, c'est ça?
Je viens de me salarier le 1er octobre.
Ah, bravo.
D'accord, 2019.
2019.
D'accord. Et aujourd'hui, il y a combien de salariés dans l'association?
4.
4, d'accord.
4 emplois qui ont été créés cette année.
Ouais.
Avant de rentrer dans les détails de l'association, parce qu'on va vouloir tout comprendre, on voulait quand même parler du vrac d'abord, parce qu'en fait, en discutant, on se rend compte que les vracs, c'est pas aussi innovant que ça. En fait, avant, on faisait nos courses dans ces formats-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mieux connaître l'origine des produits emballés. Ça date des quand, en fait? Quand est-ce qu'on a commencé à mettre du plastique partout?
Supermarché.
C'est les supermarchés. C'est quoi, les années 50
Oui, après-guerre.
Après-guerre, quoi.
Après-guerre, plastique pas cher, avènement des supermarchés. Il fallait pouvoir nourrir tout le monde. Et du coup, c'est à ce moment-là que les produits pré-emballés ont commencé à apparaître.
Mmh.
Et également pour faciliter, faire gagner du temps.
Mmh, bien sûr.
Faire gagner du temps. Les femmes qui vont travailler et qui sont moins au foyer, voilà. C'est toute cette période-là qui a fait l'avènement des produits pré-emballés au détriment du vrac et de la consigne.
Et le retour du vrac, il date de quand, tu dirais? Il y a toujours eu des gens qui vendaient en vrac? Il y a toujours eu du vrac? Ou il y a vraiment un boom du vrac récemment?
Boom du vrac 2017, pour moi. C'est vraiment là, on le voit au niveau des chiffres du marché, qu'on est passé de 100 millions d'euros en 2013 à 477. Ouais. La cassure, elle s'est vraiment faite en 2017. Et avant, le vrac existait sous forme de rayons dans les supermarchés bio.
Bio, voilà. C'est au début, c'était un peu
c'est
comme ça.
Ouais. C'est le bio. Et ensuite, il y a eu des initiatives aussi chez Auchan, avec un rayon discount du vrac, qui en fait n'a pas forcément bien fonctionné, mais qui persiste dans certains Auchan.
Ouais.
Et à côté, Auchan a déployé aussi des rayons de vrac plus qualitatifs. Et c'est là où ça a commencé aussi à mieux prendre dans les supermarchés traditionnels.
Et les épiceries 100% vrac, nouvelle génération, on va dire, ça date des quand, les premières qui commencent? Parce que toi, tu voulais faire ça en 2013 et il n'y avait pas beaucoup, je suppose.
Il y en avait très peu, oui. En 2013, devait y en avoir 2.
Et... Ouais.
Ouais, si tu veux vérifier.
Deux en 2013.
En 2013. Mmh. Et là, aujourd'hui, c'est quoi? On parle d'une
355, même plus. Là, je crois qu'il y en a encore 2 qui ont ouvert vendredi.
Épicerie 100% vrac. On parle de là. Épicerie 100% vrac ou de.
C'est jamais 100% vrac. Il y a toujours du pré-emballé. des bocaux de sauce tomate ou de confiture. Vous allez en tout, du coup, c'est pas du 100% vrac, ouais. Mais
genre day by day, même day by day, il y a un petit peu de produits.
Non. Alors day by day, eux, il y a pas du tout de produits pré-emballés. Mais du D'accord. coup, tout ce qui n'est pas en pré-emballé, ils le vendent pas. Mmh. C'est-à-dire que vous n'allez pas trouver de sauce tomate s'ils n'ont pas de solution de sauce tomate en vrac, par exemple.
Oui, on peut dire que c'est 100% vrac.
Oui,
d'accord.
100% vrac.
Mmh. Et justement, ah pardon, vas-y.
Non, vas-y.
Non, donc on parle du vrac depuis tout à l'heure. Pour toi, comment tu pourrais résumer justement les bénéfices du vrac? Qu'est-ce qu'amène le vrac? Il y a les bénéfices écologiques, économiques, c'est tout, c'est...
Alors,
c'est la question.
C'est multiple.
Ouais.
C'est multiple. Directement, c'est... réduction du gaspillage des ressources. Ouais. Ça, c'est au niveau global. Mmh. Pour détailler, réduction du gaspillage alimentaire, puisqu'en fait, le vrac permet d'acheter à la juste quantité. Mmh. La vente en vrac, c'est la vente de produits non pré-emballés, en quantité choisie,
ouais.
en libre service, dans un contenant réutilisable.
Ça, c'est la définition officielle.
Qui vient de faire son entrée
dans la loi.
Dans la loi.
On en parlera un petit peu après. C'est ça.
Du coup, à partir de là, ça veut dire que le vrac permet de choisir librement ses quantités. Donc, ça veut dire de pouvoir consommer selon ses besoins ouais. et de s'en tenir à ses besoins.
Réduction du gaspillage alimentaire.
Et réduction des déchets d'emballage jetable ou superflu.
Donc là, c'est l'aspect plus écologique.
Voilà, en venant notamment faire ses courses avec ses contenants. Et aussi parce que nous, on travaille sur toute la filière. Là, on mène des groupes de travail en ce moment entre les fournisseurs et les magasins pour aussi réduire l'impact des emballages entre le magasin et le fournisseur. Mmh. Le magasin reçoit les produits en vrac dans des contenants. Ouais. Donc, on travaille sur tout cet aspect-là. Et après, c'est un bénéfice, on descend moins sa poubelle.
Ouais.
Ça peut paraître un peu simple à dire, mais voilà, on descend moins sa poubelle. On prend plus de temps à mieux connaître les produits.
Ouais.
On découvre des nouveaux produits. Souvent, quand on va dans un rayon vrac ou dans une épicerie vrac, on fait la connaissance de produits qu'on ne voyait pas forcément avant.
Il n'y a plus la barrière de l'emballage.
Il n'y a plus la barrière de l'emballage. Et aussi, les épiceries vrac vont dénicher des produits qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ou de consommer.
Mm-hmm.
Je pense à du millet, par exemple, qui consomme ouais. encore du millet. Voilà. Mm. Et dénicher des produits qu'on ne trouve pas dans les supermarchés parce que aujourd'hui, les fournisseurs de produits vrac sont des structures qui proposent des produits qui ne sont pas ceux des grandes marques traditionnelles.
Mmh.
Donc, ça peut être d'autres gâteaux apéro, d'autres biscuits sucrés, voilà, des gourmandises un peu différentes. Donc, c'est ça. C'est aussi recréer du lien social. On arrive, on discute. On rediscute avec son commerçant parce qu'on a besoin de conseils.
Oui.
On se
fie plus à l'emballage. Il n'y a plus d'emballage, donc on doit poser des questions au vendeur pour
voilà. connaître
le produit et avoir des conseils.
Ça me fait penser, je vais comme d'habitude, et tu l'avais dit déjà sur LinkedIn, tu me connais très bien, je vais en parler des kilogrammes.
Le
en plus,
kilogramme.
J'ai appris que Célia, elle est ma voisine, donc elle est aussi cliente Kilogramme.
C'était pas prémédité.
Non. Et ce qui est intéressant chez Kilogramme, c'est que moi, j'ai parlé d'eux parce que c'est pour moi l'épicerie vrac.
Ils sont formidables.
Qui est à côté de chez moi, donc je connais son mode de fonctionnement. Et eux, souvent, par exemple, ils mettent en avant des recettes. On voit, et surtout, ils ramènent des produits qui sont peut-être des produits qu'on n'a pas l'habitude de manger. Et ils expliquent comment les cuisiner. Et je trouve ça, c'est très riche. Et ce que tu viens de dire, les liens humains, j'ai pas du tout la même relation avec les équipes Kilogramme que j'ai chez Franprix quand je dois acheter certains produits que j'achète toujours chez Franprix. Donc, je m'y retrouve 100% dans ce que tu viens de dire.
On a l'impression de mieux les connaître.
Oui, d'être vraiment des gens qui sont plus proches. Juste, j'en profite pour dire, on a à chaque épisode du podcast, on invite notre communauté à poser des questions à nos invités. Et les sujets vrac, c'est un sujet qui génère beaucoup d'attention aujourd'hui.
Beaucoup de questions.
On a eu
beaucoup de questions.
Ouais. notamment sur Twitter. Et là, tu parlais d'emballage, et c'est vrai que c'est un sujet qui a été surmonté par Joanne. Ivoire, il pose la question, l'emballage d'abord un rôle des protections contre les contaminations. Comment peut-on limiter les risques des contaminations avec les vracs?
Par une bonne hygiène des manipulations et des ustensiles et des contenants. Mmh. Donc aujourd'hui, le vrac, ça ne s'improvise pas. Justement, quand je disais à l'époque où j'ai voulu monter une épicerie vrac, il n'y avait rien.
Ouais.
On s'est attaché avec l'association à mettre en place des bonnes pratiques d'hygiène,
ouais,
de la vente en vrac avec une hygiéniste. Et du coup, qui permet de traiter en fait tout le cycle de vie du produit, du moment où on référence le fournisseur jusqu'à la remise du produit au consommateur. Quels sont les bons gestes que le magasin doit faire? Quels sont les bons gestes que le consommateur doit faire? Et donc, ça passe par la sélection du fournisseur, le contrôle à réception des produits, le stockage, l'entretien, le nettoyage, désinfection des équipements de vente.
Distribution, des...
Voilà. Des ustensiles aussi sur le lieu de vente.
Donc ça, c'est des formations que vous dispensez.
Voilà.
Ça, c'est Réseau Vrac.
Exactement. Tout à fait. Donc ça, et c'est et donc la formation est accompagnée d'un guide qui permet du coup, et des fiches aussi, plein de fiches qu'on a mises en place, techniques aussi, qui permettent par exemple de se dire, moi, commerçant, qu'est-ce que je fais en cas d'infestation de mythes alimentaires? Par exemple.
Ouais.
Donc, quels sont les processus à mettre en place, de plans de nettoyage, de tout. Donc, ça s'improvise pas, ça existe. Et si c'est bien fait, il y a aucun souci.
Il y a moins de risques, ou pas de risques.
Mais
à manger, c'est prendre un risque. Ouais. Sa santé, dirait notre hygiéniste. Alors, il y a toujours un risque.
C'est juste qu'on le réduit. D'accord.
Voilà.
Mais il y a certains produits, ou certaines catégories des produits qui posent toujours un problème. On était récemment avec Christophe Audouin des Deux Vaches, oui, qui nous disait pour tous les produits laitiers, les vracs, ça a quand même encore des barrières sanitaires ou juridiques surtout.
Il y a, à partir du moment, effectivement, on est avec des produits aqueux qui contiennent de l'eau, les risques microbiaux sont beaucoup plus importants.
Mmh.
D'où l'importance des équipements de vente et des manipulations que vont faire les consommateurs. C'est-à-dire qu'il y a un entretien de ces équipements qui doit être fait et le fait que le consommateur peut ou pas toucher ses équipements. S'il ne peut pas les toucher et que les équipements sont régulièrement nettoyés, les risques sont beaucoup plus limités que si le consommateur va toucher les embouts de distribution avec des gouttes. Je pense à la machine qui avait été testée cet été.
Ah, chez Day by Day.
Chez Day by Day, exactement. Le consommateur n'était pas en contact direct avec le goulot de distribution. Néanmoins, effectivement, tous ces processus-là sont très observés.
Ouais, c'est en phase d'amélioration. Mais il nous disait qu'il était assez confiant sur le fait de pouvoir sortir des machines qui correspondent aux normes d'hygiène et qui satisfassent tout le monde. Justement, les freins aujourd'hui du développement, enfin, pour toi, quels sont les freins du développement du vrac? C'est l'offre, c'est justement les sujets d'hygiène. Enfin, pour le consommateur, pourquoi un consommateur, pourquoi on consomme pas tous en vrac aujourd'hui?
Premier point, c'est parce qu'il n'y a pas assez de vrac disponible.
Ouais, c'est l'offre.
C'est-à-dire l'offre, plus de produits, plus de points de vente. Quand on creuse ces deux-là, comment on fait pour avoir plus de produits? Ben, il faut plus de fournisseurs. Et il faut que ces produits soient légalement autorisés. Donc là, on a une barrière législative, par exemple. Donc ça, c'est tout le travail de l'association.
Ouais.
Mais peut-être que vous voulez qu'on en revienne.
On peut en parler maintenant. Peut en parler maintenant. Ouais. Donc il y a un frein juridique. Enfin, il y a des freins législatifs.
Il y a des produits qui aujourd'hui ne sont légalement pas autorisés à la vente en vrac. C'est le cas de l'huile d'olive.
Ouais.
Donc ça, c'est un règlement européen. En France, on a réussi, ce qu'on travaille en étroite collaboration avec les autorités, à faire en sorte que l'huile d'olive puisse être vendue en quantité à la demande.
Et ça, pourquoi on ne peut pas vendre de l'huile d'olive en...
Il n'y a pas de raison officielle, mais de protection, d'éviter les fraudes.
Mais on peut vendre de l'huile, tournesol, mais pas d'huile vrac, mais pas d'huile d'olive.
Et
bizarre,
en plus, Chux, on peut vendre un mélange d'huile qui contient de l'huile d'olive en vrac, mais pas de l'huile d'olive vierge en vrac. Voilà.
C'est le mystère de la législation des normes.
Voilà. Les compléments alimentaires, par exemple.
Ouais. Donc ça, on ne peut pas vendre en vrac.
On ne peut pas les vendre en vrac.
Mm-hmm.
Les produits sous SICO, donc de signes de qualité et d'origine. Donc, c'est tout ce qui est label rouge, etc.
Ouais.
Alors, certains produits
les
peuvent
AOP aussi,
pas.
Ou pas.
Voilà, ouais.
Tous les produits d'AOP, d'accord.
En fait, ce qui se passe, c'est que les cahiers des charges de ces produits-là ne prévoient pas, pour la plupart, la vente en vrac ou l'interdisent.
L'interdisent quand même.
Ou l'interdisent. Parce qu'en fait, le produit de qualité, là, tous ces produits-là, sont cultivés en fait dans une aire, sont produits dans une aire, emballés, conditionnés. On s'est emballé dans cette aire.
Ça fait partie de la OP, ouais.
Et à partir du moment où on ouvre, c'est-à-dire qu'on déconditionne, qui peut garantir qu'on n'a pas fraudé?
Ouais. Donc, c'est ça, en fait. On a mélangé avec autre chose.
Voilà, donc pour garantir, en fait, l'origine.
Pour lutter contre les fraudes. Pour
garantir l'origine et la qualité, etc. Et donc, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est en train de changer.
Ouais.
Grâce aux amendements réseau VRAC, voilà. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'une épicerie qui vend, par exemple, du piment d'Espelette en VRAC, elle peut en vendre, mais elle n'a pas le droit d'afficher
piment d'Espelette,
le logo exactement et la dénomination.
Parce qu'à partir du moment où elle a ouvert le contenant, elle ne peut plus,
c'est
plus donner comme ça. Donc voilà. ça va changer.
Ça va changer pourquoi ?
Comment tu fais pour faire changer ça ? Voilà.
Donc vous êtes peut-être pas sans savoir qu'on a un projet de loi, il y a le projet de loi anti-gaspillage, économie circulaire en cours.
Mmh. Qui est passé au Sénat et qui est en étude à l'Assemblée nationale, c'est
voilà,
ça ?
Jusqu'au 20 décembre. Et donc, notre association a déposé des amendements pour faire entrer le VRAC dans la loi.
Donc là, on découvre un aspect de réseau VRAC, c'est un aspect lobby, clairement.
Voilà.
Comment on fait justement pour déposer, comment une association fait pour déposer un amendement? On passe par un député?
Par un sénateur.
Sénateur d'abord.
Donc on est d'abord passé par un sénateur, le sénateur Guillaume Gontard, Nisère.
D'accord. Ma région encore.
Voilà. Et on a rédigé ce qu'on n'avait jamais fait jusqu'à présent, mais on a rédigé des amendements. Donc il fallait savoir comment les rédiger, où les introduire dans le code de la loi.
Et comment vous choisissez ce député, enfin comment ça se passe?
Ah, c'est lui qui est venu
nous voir. D'accord.
Ah, super.
C'est lui qui est venu nous voir.
Donc, c'est un député qui a des convictions déjà.
Qui voulait porter le sujet de la vente en vrac, donc c'est tombé à point nommé. Et donc, nous avons rédigé plusieurs amendements, dont une définition de la vente en vrac.
Que tu nous as partagé tout à l'heure, d'accord.
Voilà. Ah. Et cette définition de la vente en vrac, de cette définition découlent deux autres choses qui sont dans l'amendement déposé. C'est le fait de vendre, d'autoriser tous les produits à être vendus en vrac.
Ouais.
Sauf pour des raisons de santé publique, et de donner le droit aux consommateurs de faire ses courses avec des contenants réutilisables, propres et adaptés, et qu'il en soit responsable.
Ah d'accord, donc la responsabilité juridique, elle passe du côté du consommateur maintenant.
Et ça va permettre de faire accélérer l'utilisation des contenants non jetables par les consommateurs pour acheter, pour faire ses courses en vrac, que ce soit dans une épicerie, mais aussi chez votre boucher, chez votre crémier, parce que ça, c'est du vrac.
Ça, c'était pas possible avant, si chez un boucher,
c'était pas précisé.
D'accord.
Et là, on le précise.
Donc là, c'est tous les produits, sauf quelques rares exceptions dont tu parlais.
Et un autre amendement, c'est l'amendement pour les produits SICO, pour les produits de qualité, justement. On a déposé un amendement pour faire en sorte qu'ils soient... Enfin, pour les autoriser à leur vente en vrac et demander à ce que les organismes de gestion de ces labels puissent modifier, adapter les cahiers des charges pour prévoir la vente en vrac.
Donc, on pourra acheter du piment d'Espelette en vrac.
Oui, en fait, en tout cas, les magasins qui vendront ces produits-là en vrac pourront afficher fièrement leur logo.
Avec le petit label IGP.
Voilà, c'est une fierté quand même française, une belle filière. Ce serait dommage de s'en priver pour le vrac, sachant qu'en plus, les consommateurs vrac plébiscitent des produits de qualité. Ça va un peu de pair.
Et les sourcings dans les vracs, c'est une question qui intéresse beaucoup aussi nos auditeurs. Il y a Olivier Frey via Twitter qui a posé la question qu'il y a parfois un certain laxisme sur l'origine des produits vrac. Est-ce que c'est dû à un problème d'approvisionnement en fait?
Laxisme, c'est-à-dire
Affichage. Il n'est pas avec nous là pour
clarifier
la question. Mais sinon, c'est une autre question un peu dans les mêmes esprits. C'est comment gérer la traçabilité des produits vrac de la production à la consommation. J'ai rajouté juste une anecdote. J'ai regardé une vidéo d'une consommatrice très engagée dans les vrac. Elle disait, j'achète presque tous mes produits agroalimentaires en vrac, sauf la quinoa, parce que par exemple, je vais acheter une quinoa produit en Loire, proche en Anjou, sauf que cette quinoa-là, malheureusement, elle n'est pas disponible en vrac, donc je l'achète pré-emballée. Je pense que la question du sourcing
Il y a la disponibilité des produits et la partie affichage, traçabilité.
Il y a peut-être ça, parce qu'elle disait les quinoa en vrac, par exemple, où elle achète ses produits, ça venait de la Bolivie, donc elle préférait faire les choix du quinoa français. Il y a les deux questions. Il y a la question d'abord sur la traçabilité, comment on fait pour avoir une bonne traçabilité sur ces produits-là, surtout aujourd'hui avec des applis comme Yuka, même des produits industriels, on peut essayer d'avoir plus d'informations sur ces produits. Pour les vrac, c'est un peu plus compliqué. Quelle est la vision de l'association par rapport à ça?
Alors, ça fait partie de tout le travail. C'est vrai que je ne sais pas si je l'ai dit, mais l'objet de Réseau Vrac, c'est-à-dire que moi, j'ai accepté la mission de Zero Waste, et ensuite, la vision que j'ai posée pour Réseau Vrac, c'est de ne pas faire une association uniquement centrée sur les porteurs de projets, mais une association qui va construire toute une filière. Donc aujourd'hui, Réseau Vrac fédère plus de 1200 professionnels de toute la filière, de l'amont à l'aval, producteurs, transformateurs, distributeurs et porteurs de projets.
Magasins et porteurs de projets.
La vision d'avoir toute la filière réunie, c'est que sans avoir la filière réunie sous un même chapeau, on ne va pas pouvoir structurer, construire ce marché pour le développer. Et donc, les premiers temps de Réseau Vrac, ça a été de faire justement cette structure de marché. Donc, poser le cadre législatif, poser le cadre en matière d'hygiène, poser du coup des formations pour former, parce qu'à partir du moment où on définit le cadre légal, les bonnes pratiques, il faut pouvoir les diffuser. Donc, c'est former les professionnels. Et donc, au niveau de la traçabilité, ça fait partie des objets de base de Réseau Vrac, c'est de faire en sorte que le cadre législatif qui a beaucoup de vide juridique pour le vrac puisse être clairement lisible pour tous les acteurs et appliqué. Et donc, il y a des mentions légales pour le vrac. On ne peut pas dire il n'y a rien pour le vrac. Ce n'est pas vrai.
Oui, ce n'est pas parce que c'est vendu en vrac qu'il n'y a plus de mentions, il n'y a plus rien.
Exactement.
Et que tout le monde est libre de faire n'importe quoi. Il y a quand même des contraintes. Et vous créez ce cadre-là pour que tout le monde s'y retrouve.
Exactement, pour le clarifier produit par produit. Quelles sont les mentions, etc. Les allergènes, c'est obligatoire.
Ouais, bien sûr.
Le prix au kilo, c'est obligatoire. La dénomination, l'état physique du produit, c'est obligatoire. Et quand on vend des produits bio, il faut pouvoir préciser l'origine, par exemple. Voilà, donc ça ne s'invente pas, c'est légal. Donc ça, c'est ce qui assure la traçabilité. Et nous, notre association, on recommande d'aller plus loin que les mentions légales obligatoires et d'afficher, par exemple, les valeurs nutritionnelles. Pourquoi pas des conseils d'utilisation, de recettes. Des choses qui vont permettre de guider le consommateur, de le rassurer dans ses achats. Et l'autre point, donc, c'était la disponibilité des produits en vrac. C'est tout le travail de Réseau Vrac, c'est de créer le marché. À partir du moment où on crée le marché, on montre qu'il y a de la demande, l'offre s'y intéresse. Et on voit aujourd'hui, quand on a créé l'association, au tout début, on avait beaucoup de porteurs de projets, très peu de fournisseurs. Or, on sait qu'aujourd'hui, les porteurs de projets, ils ont besoin de trouver des fournisseurs. Sinon, ils ne vont pas avoir de produits dans leurs épiceries. Et là, aujourd'hui, on a plus de 250 fournisseurs.
Voilà, ça, c'est un point très important. Réseau Vrac, ce n'est pas uniquement une association de commerçants. Vous représentez aussi, et vous avez dans vos adhérents, des producteurs. Et votre ambition, c'est de développer l'offre.
C'est ça, de développer l'offre de produits en vrac. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait du vrac partout. Sur un maximum de produits au plus proche de chaque Français. C'est ça l'objectif de Réseau Vrac, d'offrir une véritable alternative aux pré-emballés. Si vous avez une épicerie vrac pour toute la ville, ça ne marchera pas. Il faut en avoir plusieurs. Il faut que l'offre des rayons vrac s'étoffe
et ça passe
dans les magasins qui ne sont pas 100% vrac.
On avait évoqué ces sujets avec Alexandre et Samuel, fondateurs de Terroir d'Avenir, qui disaient qu'on avait un lien avec ces agriculteurs qui produisaient des produits de qualité, mais qui n'avaient pas des débouchés pour ces produits-là. Et nous, on a aidé à créer ces marchés. Et aujourd'hui, la demande des consommateurs nous permet d'aller voir d'autres producteurs en disant, écoutez, il y a une demande, passez-vous à une agriculture en mode
de formation. Plus facilement les convaincre.
Voilà.
C'est ça.
Et je pense que c'est pareil pour les vrac. C'est que, autant que consommateurs, on parlait des kilogrammes. Moi, depuis un an, j'ai la chance d'avoir une épicerie 100% vrac à côté de chez moi. J'y vais souvent, trois fois par semaine, pour mes achats quotidiens. Mais avant, je n'avais pas les choix. Donc, même si j'avais envie d'acheter vrac, c'était beaucoup plus compliqué.
Exactement. Et on ne va pas forcément faire 20 km pour faire ses courses en vrac. C'est pas une solution. Donc, ça me fait penser que je n'ai pas fini de développer mon point sur la partie plus d'offres, plus de magasins. On me disait, est-ce que ça va se développer ? Donc, effectivement, il y avait les barrières législatives, mais aussi les barrières techniques. Vous preniez l'exemple du yaourt. Aujourd'hui, pourquoi on n'a pas forcément plus de yaourt disponible en libre-service, en vrac ? C'est parce que, justement, c'est des produits fragiles, donc qui nécessitent un équipement de vente particulier. Ça a un coût.
Sans parler du distributeur de faire bien, il faut le temps que les industriels ou les producteurs le développent.
Et donc, ils vont y aller que s'il y a un marché. Ils vont investir dans la recherche et développement que s'il y a un marché et s'il y a un équilibre économique. Si votre marché, si votre machine coûte 20 000 euros, qu'elle prend 2 mètres carrés au sol pour vendre un yaourt à 2,50
ils
euros,
vont pas être très motivés,
ça
ne
va pas marcher. Vous voyez, faut qu'il y ait un équilibre économique aussi qui se fasse derrière.
Le marché, justement, tu parlais de la croissance tout à l'heure, mais tu t'es arrêté, je crois, sur l'année 2017-2018, tu parlais de 450 millions d'euros, c'est ça ? Aujourd'hui, le marché du vrac, il représenterait combien ?
Il a...
C'est une estimation, je crois.
Selon nos estimations, 1,2 milliard. Ouais, on va finir cette année à 1,2 milliard. On a fait x12 depuis 2013.
x12 depuis 2013, avec une énorme croissance.
C'est énorme, c'est plus de 50% de croissance annuelle moyenne.
Les consommateurs du vrac, tu dirais qu'ils ont quel profil ? C'est plus des citadins, c'est...
Assez
on est au-delà du cliché, parce qu'on imagine le bobo parisien, c'est des bobos parisiens ou c'est pas que ?
Non, c'est pas que, puisqu'aujourd'hui, la majorité des épiceries vrac, déjà, elles sont pas à Paris. On en a une quinzaine à Paris. D'accord. Donc, ça veut dire que les 340 autres, elles sont pas à Paris.
Elles sont en région.
Donc, déjà, ça, c'est le premier point. Ensuite, on a effectivement... on a toutes les franges, toutes les CSP qui consomment vrac. On a peut-être un peu... plus forte représentativité des consommateurs 20-35 ans. Ensuite, on dirait les plus de 65 ans.
D'accord.
Et ensuite, le reste, voilà, les familles, sachant que ça peut aussi varier de profil entre la semaine et le week-end. Et après, un peu plus de femmes quand même. Un peu plus de femmes dans les clients et le week-end, famille. Voilà, donc on...
Quels sont les produits qui ont les plus grosses progressions en fait dans les vrac, les plus populaires, on va dire ?
Les fruits secs, ce que les gens connaissaient déjà en vrac continuent d'acheter. Après, les produits d'épicerie salée classiques, les légumineuses, les féculents. La progression qui est intéressante, c'est surtout sur le non alimentaire. Donc, tout ce qui est produits d'hygiène beauté, produits d'entretien pour la maison, qui déjà étaient très peu présents avant et se développent de plus en plus et donc occupent une part de marché, enfin une part dans le chiffre d'affaires des épiceries
plus important. D'accord.
Et au-delà, ce qui est intéressant de moi, c'est qui m'a fasciné avec la cosmétique, c'est qu'au départ, par exemple, chez moi, ma femme, elle s'est mise à acheter des produits vrac pour la cosmétique, mais très rapidement, elle s'est mise à produire elle-même la lessive, les crèmes, les machins. Et les gens, au-delà du vrac, ils commencent à faire eux-mêmes certains produits, et je trouve ça passionnant, en fait.
Le vrac rapproche définitivement la personne ou le consommateur, peu importe, du produit.
Du produit, c'est ce qu'on voit.
Plus on s'intéresse au produit, plus on s'intéresse à qui il est produit, comment il est produit, qu'est-ce qu'il compose, est-ce que moi je peux le faire. Et c'est ça qui est formidable, vous me demandiez qu'est-ce qu'on peut dire, quels sont les bénéfices du vrac.
Ça fait clairement partie.
C'est une meilleure connaissance du produit, faire un peu plus soi-même, réapprendre à cuisiner. Voilà, il y a cet aspect-là aussi qui, effectivement, est assez fort avec le vrac.
Il y a aussi la question du prix. Ça, c'est une deuxième question d'Olivier Fray. Pourquoi, dans certains magasins, les vracs sont parfois plus chers que les mêmes produits emballés ? Je pense que ce n'est pas que dans les vracs. On parle aussi de l'agriculture paysanne, par exemple. Évidemment, les légumes vont être plus chers. J'ai une anecdote. J'ai mon voisin, Hervé, que je salue, qui, un jour, a accompagné ma femme pour aller chez Kilogramme. Il ne connaissait pas. Et il y rentre. Il trouve ça extraordinaire. Sauf qu'il dit tout de suite, c'est trop cher. Lui, il a 60 ans, il vient d'une autre génération. Il n'est pas habitué à payer ces prix-là pour certains produits et il est réparti sans rien acheter. Comment vous voyez ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la perception des consommateurs ?
Alors, il faut voir qu'est-ce qu'on appelle plus cher. Est-ce qu'on appelle plus cher un produit de qualité qui vaut ce prix-là par rapport à un produit de moins bonne qualité ? Faites le comparatif. Souvent, les épiceries vrac vendent des produits de qualité, plutôt bio. Donc déjà, on peut pas se permettre de comparer ça, si vous voulez, à un prix discount non bio. Donc il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on compare.
Mais à qualité équivalente, normalement, un produit vrac devrait être moins cher. On est d'accord ?
Pourquoi ?
Je sais pas. C'est une question. S'il y a moins d'emballage, il y a moins de...
Mais il y a plus de main-d'œuvre.
Il y a plus de main-d'œuvre. Donc non, ça veut dire que dans la promesse du vrac, il n'y a pas a priori le prix. C'est toutes les promesses, tous les bénéfices que tu as évoqués tout à l'heure.
La promesse du prix, vous allez en fait la retrouver dans le fait d'acheter à la juste quantité.
Oui, c'est-à-dire moins de gaspillage, en effet.
Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un budget. Je vous ai dit, on a beaucoup de jeunes qui achètent vrac. Vous n'allez pas me dire que c'est les jeunes qui ont le plus d'argent.
Non.
Vous avez un budget de 20 euros pour la semaine. Faire vos courses en vrac va vous permettre d'allouer ce budget à plus de produits que si vous les achetiez pré-emballés. Ouais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ensuite se dire, comme on achète à la juste quantité, on ne gaspille pas. Regardez ce que vous jetez quand vous achetez des trop grandes quantités qui, au final, se perdent dans vos placards. Et il ne faut pas oublier que chaque année, le coût du gaspillage en France a un certain coût. Ça varie d'une commune à une autre.
Coût pour la société.
Ouais. Pour la société, pour vos taxes d'ordures ménagères, etc. Et ça, c'est ce que moi j'appelle des... Enfin, c'est pas que j'appelle, ce sont des coûts cachés que les gens oublient.
Et qu'on va finalement payer dans ces ans.
Voilà, ils oublient de se dire, bah tiens, effectivement, au final, chaque Français jette 7 kilos pré-emballés, parfaitement emballés. On jette 30 kilos par an de nourriture, dont 7 kilos pré-emballés. Mmh. C'est-à-dire que ces 7 kilos-là, vous avez acheté, vous avez directement mis à la poubelle. Donc, tous ces sous-là, c'est-à-dire si vous faites l'ensemble de vos courses pré-emballées plus tout ce que vous avez jeté, ça coûte plus cher.
Oui.
Que d'acheter à la juste quantité.
Sans compter les gaspillages qui ont lieu lors de la transformation. Hier, je regardais l'émission Capital sur M6. Ils parlaient d'une grande chaîne des produits surgelés. Et ils montraient les petits canapés au foie gras qui faisaient tout beau, tout joli pour être vendus pendant la période des fêtes. Et il y avait genre 10% de ces qui étaient produits qui étaient jetés à la poubelle avant même d'aller dans un emballage parce qu'ils ne respectaient pas les normes établies, les cahiers des charges établis par les producteurs. Donc, c'est fou.
Ils sont faits souvent. Le plus gros gaspillage est fait effectivement souvent au niveau de la transformation. Et avec le vrac, aujourd'hui, il n'y a pas de produits transformés ou alors très peu.
Très peu, ouais.
Donc effectivement, on est plutôt sur du produit brut. Donc du coup, il y a moins aussi de gaspillage.
Mais c'est quand même un point important, quand ta clarification était importante, c'est qu'en tarif facial en magasin, a priori, un produit vrac n'est pas moins cher. Parce que comme tu le dis, certes, il n'y a pas d'emballage, mais il y a de la main-d'œuvre.
Il y a de la main-d'œuvre. Après, ça dépend. Moi, c'est l'exemple que j'aime beaucoup donner parce qu'il il se vérifie. La marque Bindi, qui fait des préparations végétales en pré-emballé et en vrac, ça lui coûte moins cher de la produire en vrac. Du coup, elle la vend moins cher au magasin. Et quand vous allez dans un magasin bio qui vend ses préparations en pré-emballé et en vrac, vous allez comparer, c'est moins cher.
C'est moins cher. Donc voilà.
Si le magasin n'a pas décidé de se garder la marge.
Le distributeur joue le jeu aussi.
Mais là, c'est possible. En fait, il faut trouver un produit à marque que vous pouvez retrouver au rayon vrac et au rayon pré-emballé. Et là, faites l'exercice.
Et là, normalement, le produit en vrac devrait être un peu moins cher. Ouais, moins cher, d'accord. Mais, donc, ça répond à la question de...
Mais après, voilà, il faut un rayon vrac, ça demande de la main-d'œuvre. Et de la main-d'œuvre, c'est du temps. Donc, c'est des personnes que l'on paye. Donc, si on veut rémunérer tout le monde à sa juste... voilà, il y a un moment donné, le coût du travail qui doit être réincorporé quelque part.
Et c'est vrai que c'est bien de le rappeler que pour un magasin, c'est plus compliqué de remplir un distributeur de vrac que de remettre des produits sur un linéaire. Ça nécessite beaucoup plus de main-d'œuvre.
Il y a de la main-d'œuvre avant et pendant.
Et il y a une autre question qui nous a été posée sur Twitter concernant la livraison. Apparemment, il y a des services des livraisons vrac qui se développent. Quel est l'avenir par rapport à ça et surtout par rapport à la question du bilan carbone, de la livraison individuelle? Quelle est la vision de l'association par rapport à la livraison en vrac?
Ça se développe de plus en plus, effectivement. On forme de plus en plus de personnes qui veulent ouvrir des drives zéro déchet, donc avec de la préparation de commandes en amont dans des bocaux consignés, etc. Et on a aussi de plus en plus d'épiceries, alors souvent des épiceries itinérantes qui font du click and collect.
Ouais.
Donc des épiceries vrac qui proposent, en plus d'aller vendre sur des marchés voilà, en itinérant, de faire de la préparation de commandes et de la livrer à vélo, par exemple, ou de venir la chercher.
Là, on ne peut pas le faire avec le contenant du client, parce que par définition, on l'a préparé avec un nouveau contenant, ça marche une fois.
Mais après, ils les rendent. Ils ont
ils les rendent à chaque fois, ouais, c'est circulaire. D'accord.
Donc souvent, les livraisons, alors là, je sais que les exemples que j'ai en tête, la livraison se fait à vélo, par exemple. Et après, pour les autres, je ne connais pas tout, tout leur mode. Mais il faut que le vrac s'inscrive dans l'ère du temps, et l'ère du temps, c'est celui-ci.
Oui,
on n'est pas le vrac de nos grands-mères. Hein.
Ouais. On est d'accord. On a vu récemment une initiative qui est arrivée en France qui s'appelle Loop, je pense qu'en partenariat avec Carrefour, qui c'était des produits, donc des contenants en fait qu'on récupérait et ensuite on pouvait les échanger ou les remplir. Je sais pas trop comment ça fonctionne. On a trouvé que les modes de fonctionnement étaient quand même un peu compliqués. Surtout, ce qui nous a choqué, c'était les prix. Et là, les prix étaient exorbitants.
Ouais. Oui, les prix sont très très chers. Et en plus, je crois que personne ne gagne d'argent pour l'instant sur ce projet-là, parce que c'est très coûteux pour les marques d'avoir sorti ces contenants-là réutilisables. Il y a tout le système de lavage.
Il y a un coût logistique énorme dans les deux sens.
Il ne faut pas le voir comme un projet abouti, mais plus comme une initiative qui permette de mettre le pied à l'étrier sur la prise de conscience des emballages des produits et d'aller vers du mieux. Et ce n'est pas du vrac, hein, parce que la quantité reste imposée. On achète une quantité prédéfinie.
C'est juste l'emballage qui est réutilisé.
C'est un emballage réutilisable, mais ce n'est pas du vrac.
Ce n'est pas la définition du vrac que tu nous as donné tout à l'heure.
Ça n'est pas du vrac, mais c'est une bonne démarche pour aller vers une consommation plus responsable et plus durable.
On a vu que dans les actualités de Réseau Vrac, vous organisez un salon. Tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Oui, troisième édition en 2020. Initiative donc d'un salon professionnel, pareil, donc ça fait partie de tous les axes, les outils et services que Réseau Vrac développe, enfin crée pour développer le marché du vrac. Salon professionnel qui permet aux magasins de rencontrer leurs fournisseurs de vrac et du coup de passer leurs commandes. On avait commencé en 2017 juste sur une demi-journée après notre assemblée générale, un peu en mode test and learn, réservé uniquement à nos adhérents. Ça avait super bien fonctionné. On avait eu 200 participants. Ouais. L'année dernière, on s'est dit il faut le faire plus longuement sur une journée. On s'attendait à avoir, on avait un peu plus de 60 exposants. On a dû refuser énormément d'exposants qui voulaient tous venir. Ils avaient tous une offre vrac. On pensait avoir 500 visiteurs, on en avait plus de 1000.
Ah ouais,
c'était
une
fourmilière, voilà. C'était au Café
A. Ça montre encore une fois l'intérêt du vrac et le développement.
Et là, on va le faire sur 2 jours.
Ah.
Avec encore plus d'exposants et de conférences. À la Cité Fertile à Pantin.
Et ce sera quand ?
Sympa.
C'est le 25 et 26 mai 2020.
Ah, les dates sont déjà bloquées.
Voilà, les dates sont bloquées. L'agenda. On est en train de préparer tout ça. On va bientôt ouvrir les réservations pour les exposants et on va y incorporer des conférences autour du vrac.
Et ça donc, c'est les participants, c'est qui ? C'est les porteurs des projets, les commerçants, les fournisseurs,
les distributeurs, mais on a eu
les
des
consommateurs
marques.
Aussi.
B2B. Oui, ça reste vraiment B2B. Salon professionnel, mais ça n'est pas que réservé aux adhérents de Réseau Vrac,
d'accord,
comme c'était le cas la toute première année. C'est ouvert à tous. Et on avait l'année dernière des grandes marques, des grands réseaux de distribution qui sont venus voir, parce que c'est là où se passent aussi les tendances du secteur vrac. On vient voir les tendances. Et ça stimule l'innovation, j'insiste là-dessus. Parce que chaque
Comment
année,
ça, ouais.
on voit des nouvelles innovations présentées au marché, au salon du vrac.
Ah, ça devient un vrai rendez-vous.
C'est le rendez-vous, voilà. Et c'est, tout comme Réseau Vrac, une initiative unique en France et dans le monde.
Tu imagines si tu aurais eu l'envie de monter ton épicerie vrac aujourd'hui, tu l'aurais fait parce que avec tellement
là j'avais tout à disposition.
Ça a répondu au manque que tu devais partager tout à l'heure. Ouais.
Voilà, parce que c'est vrai que dans les idées, donc moi pourquoi j'avais quand rencontrer réseau Zero Waste et pourquoi je me suis dit qu'il fallait monter Réseau Vrac, c'est que je me suis dit qu'il fallait aider les entrepreneurs qui étaient comme moi dans ma situation et qu'il fallait développer le vrac. On peut pas dire aux gens consommer en vrac s'il y a pas de vrac. Donc c'était ça qui m'a vraiment stimulé dans l'idée de créer voilà.
Et là tu dirais aujourd'hui que tu as déjà bien répondu à la problématique.
Oui.
Et maintenant, tu as créé de l'accompagnement, une offre, tu interviens auprès du législatif pour faire évoluer les normes.
Oui, ouais. On avance. Maintenant, on se penche encore plus sur les groupes de travail des problématiques de la filière pour essayer de verdir au maximum la filière, je le disais là, pour pouvoir réemployer au maximum les emballages en amont. C'est-à-dire que le magasin qui se fait livrer son riz ou ses biscuits, qu'il n'ait pas à jeter.
Ouais, l'emballage.
L'emballage voilà, qu'il reçoit. Donc, ça fait partie. On va sortir un guide du consommateur vrac en 2020 pour justement accompagner le consommateur pour qu'il puisse se lancer dans le vrac plus facilement, peu importe son état d'avancement, qu'il soit néophyte, déjà un petit peu engagé ou un peu plus expert. Redescendre en fait toute notre connaissance pour accompagner le consommateur à se lancer dans le vrac. Des études. Là, on lance aussi, on travaille sur des volets d'études, parce qu'il n'y a pas de chiffres. Les chiffres que je vous donne, ce sont des estimations.
Le 1,2 milliard, c'est des estimations.
Voilà, c'est nos estimations. Là, on va lancer enfin, on est en train d'éplucher les chiffres des magasins vrac.
Ouais.
Donc, on a lancé une grande enquête.
Donc,
pour
des adhérents ou les magasins vrac?
Tous les magasins vrac, en France et en Europe.
D'accord.
Avec Zero Waste
Europe.
Donc là,
vous passez par un institut d'études. Et
voilà.
Vous... D'accord.
Et avec Nielsen aussi, on est en train de mener une enquête, c'est en ce moment, là, en décembre, sur les consommateurs vrac. Donc, on va plus loin.
Donc là, plutôt en grande distribution ou global?
Tout secteur, circuit de distribution. Mais du coup, effectivement, il y aura la distribution. Et aussi, on s'est étendu en Belgique en juin dernier. Voilà, on a lancé officiellement Réseau Vrac Belgique avec une country manager en Belgique.
D'accord.
Pour déployer l'association, les outils en Belgique. L'idée, c'est que tout ce qu'on a construit en France, ça puisse servir à d'autres pays pour accélérer le développement du vrac dans les autres pays.
Il y a des équivalents en Europe, non?
Unique.
Bravo.
Non, Réseau Vrac, c'est unique.
Et vous avez envie d'aller, en Angleterre ou en Espagne, en Italie
Là où la demande se fera. Moi, je suis en train de réfléchir justement à structurer un modèle pour déployer Réseau Vrac dans les autres pays.
Qui se duplique dans d'autres pays. Parce que justement, j'ai été surpris en préparant l'entretien de découvrir que la France était en pointe sur le sujet vrac. Donc c'est vrai.
C'est pas étonnant. Les éléments moteurs, c'est alors. Tout à bas, c'est une sorte d'ADN. Alors, on est un pays de commerce, de proximité, de bouffe. Ouais. Voilà. Réseau Vrac. Aujourd'hui, on a formé plus de 400 personnes. Donc forcément, quand on forme des gens, ils vont beaucoup plus vite pour ouvrir un magasin parce qu'on a un catalogue des fournisseurs. C'est vrai que dans les outils qu'on a développés sur le site internet, c'est un catalogue des fournisseurs. Donc quand on veut facilement ouvrir une épicerie vrac, on pioche dans le catalogue des fournisseurs adhérents référencés qui partagent les valeurs et qui sont capables d'offrir des produits en vrac. Donc formation, catalogue, accompagnement, réseau, salon du vrac, législation qui facilite, tout ça, ça fait que accélérer le développement du vrac. Et à côté de ça, la chaîne Day by Day qui possède plus de 55 magasins de vrac pèse forcément dans le développement des spécialistes. Sachant que le vrac existait déjà dans les magasins bio, c'est 88% des magasins bio qui sont équipés d'un rayon vrac et 70% des hyper supermarchés.
D'accord.
Donc on a un parc quand même qui est très... très développé et qui continue.
Donc là, l'objectif, c'est dans ces magasins-là, c'est d'avoir davantage d'offres, j'imagine, et en même temps de déployer des nouveaux, d'aider à s'installer des nouvelles épiceries 100% vrac.
Ouvrir plus de points de vente spécialisés vrac, augmenter l'offre de produits vrac disponibles dans les magasins qui ne font pas que du vrac. Ouais.
Bio et pas bio, d'ailleurs.
Bio et pas bio.
Et les spécialistes.
Exactement. Et faire en sorte que tous ces professionnels respectent la réglementation. Et les bonnes pratiques d'hygiène, j'insiste là-dessus. Ouais. Le vrac ne pourra pas se développer de manière pérenne si les professionnels ne mettent pas les moyens pour entretenir et gérer ces rayons-là.
Il y a une accréditation, justement dans les lois, on a prévu d'avoir une... Parce que tu dis que vous dispensez des formations au personnel, est-ce qu'à un moment ils ont une accréditation, quelque chose qui justement accrédite le fait qu'ils puissent distribuer du vrac? Non, il n'y en a pas besoin.
Non,
pas besoin. Okay.
Non, c'est du commerce de détail.
Ouais, donc c'est une formation...
Mais la puissance de faire entrer dans la loi la vente en vrac, ce qu'on est en train de faire, c'est que toutes les normes d'hygiène qu'on est en train de poser, elles vont pouvoir être appliquées, elles sont reconnues, elles sont conformes à cette législation qu'on est en train de faire. Ça va nous donner, nous, les moyens justement de mieux cadrer les pratiques de tous, d'avoir des contrôles.
Pour développer l'offre et aussi rassurer les consommateurs.
Exactement, garantir la traçabilité. Les trois objectifs de la filière, c'est réduction du gaspillage alimentaire, réduction des déchets d'emballage jetable, garantir la traçabilité et la santé. On les a.
On a commencé à parler un peu des enjeux pour la suite, mais il y a juste un point avant d'avancer sur ça qu'on aimerait clarifier, c'est la partie financement de l'association. Et on peut entre guillemets les business models de l'association. Et deux dimensions. Au départ, comment l'association a été financée? Et aujourd'hui, comment vous financez vos activités?
Zéro subvention, bénévolat de ma part et de mon mari pendant un an et demi. Donc, c'est-à-dire mon chômage. J'ai utilisé mon chômage pour construire une entité qui ne m'appartient pas, qui est une association avec un but louable de consommer différemment. Donc, ça a été de l'investissement de ma part et de mon mari et des membres fondateurs aussi. Et ensuite, dès qu'il y a eu un petit peu d'argent, j'ai créé un statut d'auto-entrepreneur. Pour pouvoir me rémunérer avec l'association, mais sans engager un contrat à durée indéterminée, parce que j'avais pas forcément de visibilité sur le développement.
Des honoraires.
Et puis je pouvais potentiellement avoir d'autres clients à côté pour éviter les risques juridiques de requalification au contrat.
Exactement.
Voilà. Et ensuite, c'est à partir de cette année que on a pu avoir des sous pour embaucher. Donc, le business model, c'est adhésion, formation et salon du vrac.
L'adhésion, elle coûte combien, en fait?
C'est très variable.
Il y a des packs, on a vu, des packs juridiques, packs de visibilité.
On a donc des adhésions basiques qui coûtent 120€ hors taxes pour les porteurs de projets et les commerçants. Et à partir de 180€ hors taxes pour les fournisseurs. Et après, c'est en fonction du chiffre d'affaires.
D'accord.
Et effectivement, on a pu adjoindre des packs de services en fonction des besoins de chacun. Donc, on a une directrice des affaires juridiques. Donc, on a un pack service juridique avec un cotadeur, des forfaits. Et aussi des adhésions visibilité pour les fournisseurs, qui leur permettent de se mettre un peu plus en avant auprès des adhérents magasins.
Et les modèles du salon vrac, lesquels? C'est chaque participant.
C'est un emplacement que les fournisseurs paient. Les entrées sont gratuites pour les adhérents et payantes pour les non-adhérents.
D'accord.
C'est pas sur les entrées qu'on se rémunère.
Et ça vous permet aujourd'hui d'avoir un budget annuel en 2019 de 200 000€, un peu plus, 300 000€? 500 000€?
Un peu moins, 400.
Je pense
qu'il faut que je refasse les comptes, mais voilà.
D'accord.
Non, on est démarré à zéro et on est à 400 000€. Ouais, c'est super.
Ouais, bravo.
Donc ça, c'est à peu près à l'équilibre. Ça paye les charges, les salariés, les bureaux.
Oui, parce qu'on a pris des locaux.
Ouais, voilà,
je voulais dire dans l'histoire. C'est que je travaillais de chez moi.
C'est une start-up.
C'est une start-up. C'est juste que la forme juridique est une association, mais c'est une start-up. Moi, j'ai jamais voulu construire une association basée sur les subventions, parce que déjà, c'est pas mon état d'esprit. Je trouve que si on fait quelque chose, il faut que ça marche et que ça soit autonome. Et deuxièmement, j'ai quand même essayé, parce que je me suis dit, quitte à avoir un statut d'association, autant essayer d'avoir des subventions. Sauf qu'en fait, j'ai jamais réussi à en avoir parce que les projets, les appels à projets qui étaient diffusés, parce qu'on ne donne pas d'argent comme ça, en fait, ne comprenaient pas vraiment le vrac. Donc, j'essayais d'y répondre d'une manière détournée, mais soit on me disait non, vous êtes une association de professionnels, donc nous, on n'a pas envie de contribuer à financer des entreprises. Ou alors, on me disait, oui, mais en fait, le vrac, c'est un peu éloigné de notre problématique. Donc, c'était un peu... Donc, très rapidement, je me suis dit, je viens de Dauphine. Donc, moi, j'ai fait des études d'économie. Il faut que le modèle, il puisse être autonome, sinon, ça ne fonctionne pas. Et donc, du coup, voilà.
Et du coup, tu as besoin de financement plus que le financement des adhérents? Je sais pas, tu lèves des fonds, tu as des...
Ça fait partie des idées que j'ai, c'est-à-dire comment... il y a le modèle, comment dupliquer le modèle de réseau vrac à l'international, parce qu'on est une association, donc c'est pas je crée une holding et je vais remonter machin, donc ça c'est une vraie question. Et sinon, besoin de lever de fonds, oui, théoriquement j'ai de la place pour avoir au moins 3 employés en plus, parce qu'on est on est sous l'eau. Ouais. On est vraiment sous l'eau. Donc, on a des stagiaires, on a des services civiques. Donc, c'est formidable parce que ça permet vraiment de transmettre et nous, d'avoir voilà, de la main-d'œuvre pour nous aider. Mais de manière pérenne, il faudrait au moins 2-3 employés en plus.
Et vous considérez...
Donc, lever des fonds, pardon, si on est une association, ça ne peut pas. Il faudrait créer, en fait, une filiale ou un fonds de dotation.
Ouais.
Enfin, de créer des ramifications.
C'est des sujets qui sont en réflexion aujourd'hui pour se donner plus de moyens et avoir encore
c'est
plus
ça.
D'impact.
Et avoir notamment dans l'idée de se dire, je disais le salon, créer le marché, ça stimule les innovations. Pourquoi pas un incubateur, je ne sais pas, qui pourrait financer l'innovation. Ça pourrait être intéressant.
Très
après,
bonne
faut
idée,
peut-être
l'incubateur.
Pas...
Ouais. Ouais, mmh.
Et incubateur qui pourrait être appliqué soit à des porteurs des projets, des commerçants, mais surtout à la filière ou des fournisseurs.
Et
des
à la production aussi. Ouais,
je oui, parce que c'est
voilà.
Là où je pense.
Y a... C'est là, si on veut que le vrac se développe, il faut se dire, voilà, je regarde mon panier de courses, ouais. ça existe, ça n'existe pas en vrac, en libre service. Donc, comment je peux trouver ? Et bien, c'est l'innovation qui va permettre.
Ça passe souvent par la technologie, par c'est la qualité des...
Et ça peut être des technos... très techno ou un techno comment dire j'ai perdu mon en fait aujourd'hui ce qui est intéressant c'est qu'on a des distributeurs dans le vrac liquide par exemple on a des choses très technologiques et des choses low tech
qui marchent
donc on peut faire en fait on peut faire de l'innovation c'est ça que je veux dire sans technologie
enfin.
Oui bien sûr avec des choses simples
avec des choses simples
brutes, des trucs.
Bon, il y a aussi dans les quartiers, il y a un truc qui s'appelle Isfuzo, qui est du vin en vrac.
Oui, Negocios Fuzo.
Ouais, c'est super sympa. Ouais. Tu viens avec ta bouteille, tu remplis du Prosecco, du machin.
C'est ça.
Et c'est low-tech absolu,
voilà.
mais ça marche.
Mais
c'est
ça
dans
marche.
L'air du temps, c'est ce qu'on vient de dire. Ouais.
Voilà, voilà. L'impact, vous mesurez comment, en fait je pense que voir la taille du vrac qui augmente à cette vitesse-là, c'est pour moi, un vrai KPI.
Oui.
Est-ce que vous avez d'autres indicateurs qui vous montrent, que vous suivez pour dire, OK, vraiment, les vracs vont dans les bons sens ?
Il y a deux impacts. Il y a l'impact, effectivement, chiffre, marché, donc c'est-à-dire nombre de points de vente, nombre de rayons vrac et de largeur de gamme. Donc, c'est comme ça qu'on peut mesurer après en remontant le chiffre d'affaires. Et il y a aussi l'impact environnemental. Là, il y a l'ADEME. On est en train de travailler avec l'ADEME sur la mesure environnementale du vrac.
La réduction, mesurer la réduction
et mesurer,
d'utilisation d'emballage.
Effectivement, est-ce que le vrac permet véritablement de réduire les emballages jetables ? Est-ce qu'il est aussi vertueux qu'on l'imagine ?
Comment on peut le mesurer ?
On va le commencer avec des sortes d'analyses complètes du cycle de vie. Sur toute la chaîne.
Analyser les poubelles des utilisateurs. Ça
va remonter surtout dès le producteur, en fait.
Ouais.
Oui.
Dès le producteur. Donc ça aussi, c'est des impacts qui vont arriver.
D'accord.
On voit que
le
marché se structure.
L'impact,
Après, ce qui me dit...
Et pour pouvoir travailler, s'il y a des choses qui se font et qui ne sont pas optimales, ça va nous donner des axes de travail, exactement, pour ajuster.
Une information qui m'a surpris totalement, c'est qu'on discutait avec Claude Gruffa récemment, et il nous disait que...
Ancien
président des Biocop. Il disait que les plus gros impacts dans la distribution, c'est en fait les hypermarchés, et c'est les consommateurs qui viennent en voiture au hypermarché.
L'impact carbone. Hein.
Et c'est l'impact carbone le plus important, et ça m'a surpris, parce que... Mais les vracs, pour être... par définition des commerces des quartiers, déjà cet impact-là, il est...
C'est ça, c'est vrai que le vrac est vraiment né avec les commerces de proximité.
Des proximités,
donc,
voilà.
Donc, en théorie, par définition, à proximité, on y va plutôt à pied ou à vélo. donc, c'est vrai que sur cet aspect-là, après, on l'a dit, le vrac, il n'est pas que dans les commerces de proximité.
Oui.
Il est aussi dans les rayons des hypermarchés. Oui.
Oui. Parlons de la suite, on a commencé à évoquer donc avec l'ouverture de la Belgique, donc l'envie d'aller vers l'international, peut-être d'autres pays en Europe. Mm-hmm. Quelle est ta vision pour toi? Quel est l'avenir du vrac en fait? Comment tu le vois évoluer les années à venir?
Très bien. Pour donner des chiffres, pour nous, le vrac atteindra un peu plus de 3 milliards d'euros, donc 3,2 milliards d'euros en 2022. Donc on reste sur une très très forte progression. On voit que les grandes marques nationales s'interrogent.
Ouais.
On a vu là que le gouvernement a adopté l'interdiction de tous les plastiques, les emballages plastiques à usage unique en 2040.
Ouais.
Donc ça veut dire que c'est dès maintenant, ouais. C'est dès maintenant que les entreprises voilà doivent se préparer. Donc que ce soit les réseaux de grande distribution ou les grandes marques nationales, tout ça est en train de changer et le vrac est une réponse évidente.
Claire.
Ça sera pas la seule, mais c'est une réponse évidente pour transformer ces modes de consommation et répondre notamment à cette obligation légale.
Bien sûr.
Donc ça va dans le bon sens. Donc ça ne peut faire qu'augmenter et partout.
Ouais. On l'a bien senti. Ouais.
Au-delà de l'agroalimentaire, en fait.
Et sur les autres secteurs.
Oui, parce qu'on disait, surtout les pharmacies, par exemple, aujourd'hui, ça m'arrive souvent de devoir acheter des médicaments. J'en ai besoin des 3-4 comprimés et les restes, je les garde dans un placard jusqu'à la date de...
On gaspille, c'est 1,5 kg par personne de médicaments par an.
C'est énorme.
Ouais, c'est énorme.
Énorme.
Ça a été adopté. Vendredi, donc c'est je crois l'article 5 bis BA ou voilà, sur les médicaments pour pouvoir autoriser leur vente à l'unité, donc en vrac, mais ça sera sur certains médicaments, pas tous.
D'accord.
Et c'est déjà un premier pas.
Oui.
Donc tu pourrais avoir des pharmacies dans tes adhérents alors.
Alors, il y a d'ailleurs. C'est d'ailleurs en train de se. Si, ça fait partie. Hein.
Ah, il y a déjà aujourd'hui.
Non. Enfin, je veux dire, ça fait partie des ambitions. Nous, on veut pas. Le vrac commence au niveau du commerce de détail. On l'a vu avec l'alimentaire, le non-alimentaire. Mais l'idée, c'est bien de développer le vrac à tous les secteurs sur un maximum de produits. Là où il peut être les peintures. On peut aller regarder du côté des magasins de bricolage, par exemple. Il y a sûrement des choses à faire.
Oui, c'est vrai.
Donc, la pharmacie, oui. Le vrac va commencer à faire son entrée en pharmacie, mais plutôt sur la partie produits cosmétiques.
D'accord.
Voilà, les gels douches, les choses comme ça, mais c'est déjà un premier pas.
Mmh.
Effectivement, on espère qu'avec l'adoption de cet article, on pourra aller étendre le vrac dans les pharmacies.
En tout cas, la différence de l'agroalimentaire, c'est que les producteurs, c'est souvent, ce ne sont pas petits, c'est plutôt des très gros producteurs. Donc,
il y a
pas
des
très
gros
incentivés.
Enjeux.
Voilà.
Il y a des gros lobbies, là.
Voilà, exactement. Ouais.
Et sinon, l'association, tu imagines pour toi, d'ici 5 à 10 ans, Réseau Vrac, c'est quoi en fait? Tu aimerais être à la tête de quelle association?
D'une association qui garde ses valeurs. Voilà, on a une charte aujourd'hui. On a des personnes formidables. Moi, depuis que j'ai changé de vie, que j'ai fondé Réseau Vrac, que j'adore. J'ai l'impression de rencontrer que des gens incroyables, avec des valeurs, des vraies valeurs. Et donc, j'ai envie de garder ça pour Réseau Vrac. Donc, de grandir pour diffuser tout le travail qu'on a fait, mais pas perdre notre âme. Donc, Et de s'étendre. C'est-à-dire que tout le travail qu'on a fait là depuis 3 ans et demi, il faut que ça serve, il ne faut pas qu'on le garde pour nous. Donc, de pouvoir travailler avec les autres pays pour les accompagner, donc c'est la Belgique. Là, on a en ligne de mire le règlement européen de l'huile d'olive, ça va faire partie de nos prochains combats. Il faut que ça puisse sauter. Il faut que ça puisse sauter, être autorisé partout.
Donc, la prochaine cible, c'est plus seulement l'Assemblée nationale en France, c'est le Parlement européen,
voilà.
Les députés européens.
Exactement.
Peut-être Claude Gruffat, quand il siégera d'ailleurs bientôt.
Voilà, exactement. Donc ça, étendre Réseau Vrac, qui est d'autres personnes qui ont envie de monter Réseau Vrac dans les autres pays.
Super. On avance
vers la fin, ouais.
Oui.
Les questions de clôture.
Voilà, nous avons des questions rituelles aussi pour terminer nos podcasts. Et la première question, en fait, ce sont deux questions, une question. Quel était pour toi ton plus gros échec ou apprentissage avec Réseau Vrac et aussi ta plus grande fierté réussite?
Avec Réseau Vrac, échec, ça serait un peu prétentieux de dire que j'en ai pas eu, mais je dirais que j'ai plutôt eu que des belles rencontres, belles aventures avec Réseau Vrac. C'était peut-être plus juste avant ce que je racontais là, où j'ai quitté mon ancien job pour...
Oui, la période de transition.
La
le
période
moment
de transition
a
qui a été une véritable période d'apprentissage.
Et qui est nécessaire.
Et qui est nécessaire et qui m'a permis de me relever et d'être encore plus combattante que jamais.
Et puis d'aller au bon endroit.
Et d'aller au bon endroit. Et c'est en fait, c'était de se dire que en fait, j'avais semé des graines. C'est-à-dire pendant les deux années où je me suis dit que j'avais envie de monter une épicerie prac, j'avais pas travaillé pour rien quelque part. Ouais. Puisqu'en fait, ça a servi et c'est revenu au bon moment, au moment où j'étais disponible et pour mobiliser mes compétences sur, sur un projet qui me correspondait davantage, en fait.
Donc c'est pas du temps perdu.
Pas du tout.
Et c'est un message important pour des gens qui parfois se cherchent, disent ça sert à rien, je perds du temps. Et en fait, finalement, on réutilise toujours des choses.
Et c'est pas forcément dans l'immédiat. Voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que tout n'est pas immédiat. Je sais, quand on a envie de changer de vie, qu'on a pris conscience, qu'on a eu le déclic, qu'on a envie que tout aille vite, il faut accepter que ça aille pas forcément vite. Par contre, je pense que si on est profondément motivé et bienveillant aussi dans sa démarche, en général, ça fonctionne. Ça fonctionne. Si on n'est pas mal intentionné, ça fonctionne. Si on y va, voilà, pour les bonnes raisons et qu'on est bosseur. Hein. Moi, j'ai jamais autant travaillé. Et je vous l'ai dit, hein, je me suis pas payée pendant un an et demi. Je bosse 70 heures par semaine.
Ça, tu comptes pas.
Alors, j'ai eu deux enfants. J'ai eu deux grossesses pendant Réseau Vrac. Si je pense que c'est intéressant de le dire.
C'est clair. Comment tu as géré cette période?
Eh ben, j'ai pas eu de grossesse. J'ai travaillé.
Tu t'es arrêté tard.
Je me suis arrêtée la veille d'accoucher. Ouais. Donc, voilà. Et je me suis arrêtée une semaine et j'ai repris après. Le salon du Vrac, ben voilà, je veux dire, j'ai pas eu de temps à me dire j'ai pas eu de congé maternité, c'est ça que je voulais dire. J'ai travaillé jusqu'avant d'accoucher et j'ai repris une semaine après.
Bah,
parce que j'étais toute seule. Et même là encore, j'étais pas toute seule pour mon bébé qui est né en avril, mais il y avait le salon du Vrac un mois après. Donc il fallait bien, j'y étais toute la journée avec mon bébé, il y a mon mari qui était là, et quand Côme, mon deuxième, avait deux mois, on a été en Belgique pour lancer Réseau Vrac. C'est une vraie vie d'entrepreneur, quoi.
Mais que tu as réussi à marier avec ta vie de famille
de vie de famille, et ça c'est chouette.
C'est important de témoigner. Ouais.
Tu mélanges vie privée, vie professionnelle.
J'ai pas renoncé à l'un ou à l'autre. Ce que je pensais faire pour une épicerie, mais je sais qu'aujourd'hui, au sein de l'association, on a plein d'épiceries adhérentes qui ont eu des enfants. Ouais. Donc c'est aussi possible. C'est aussi possible. Et donc voilà.
Super.
Ta plus grande réussite?
Bah, c'est Réseau Vrac.
Bah, c'est le résultat, c'est Réseau Vrac, c'est tout.
C'est Réseau
Vrac. Ces adhérents, ces magasins qui ouvrent.
Cette reconnaissance, l'entrée de Réseau.
C'est plutôt évident.
Voilà, l'entrée du Vrac dans la loi, là, c'est.
Oui, en plus.
Trois ans et demi après avoir existé, on fait rentrer le Vrac dans la loi. On a le gouvernement qui nous soutient. Brune Poirson disait vendredi qu'elle soutenait le développement du Vrac dans tous les secteurs et tous les produits. Et qu'il fallait que ça fasse
ça. C'est fort, ça.
Et elle félicitait les petits commerçants. Qui était souvent à l'avant-garde de ce genre de consommation. Donc voilà, quand on a le gouvernement...
Soutenu par l'association Réseau Vrac.
Voilà,
elle a fini sa phrase comme ça, j'espère. quel conseil tu donnerais à un entrepreneur justement qui veut se lancer dans le Vrac, d'adhérer à Réseau Vrac? Déjà, première chose.
Non, c'est de foncer, c'est de pas adhérer, enfin de pas hésiter. Parce qu'on a des questions, de dire mais j'en suis qu'au tout début, est-ce que vous pensez que je dois y aller? Oui, au contraire, plus vite on y va, plus vite on baigne dedans et plus vite on se dit est-ce que c'est fait pour moi ou pas.
Ouais. C'est de tester, c'est de rencontrer.
D'adhérer à Réseau Vrac et de suivre la formation, par exemple, monter son projet d'épicerie Vrac. On l'a vraiment créé pour se donner toutes les clés de passer de l'idée à un projet.
Et d'avoir
un go no go et de pas rester un an à rêver sur un projet ou d'avoir de rêver ce métier. C'est un métier qui est difficile et mieux vaut perdre, je dis, deux jours que toute une année ou faire un gros échec financier parce qu'on a ouvert dans les mauvaises conditions.
Bien sûr.
Si on avait su.
Et vous avez aussi des partenariats avec des plateformes de financement non participatives comme Mimosa ou Kiss Kiss Bank.
Ça rejoint le moment où je voulais créer mon épicerie et qu'il n'y avait pas de financement. C'est de se dire si on veut. En fait, c'est créer tous les outils, toutes les conditions au développement du Vrac. Et dans les conditions, il y a les financements. Donc,
bien sûr.
Premier partenaire financier, ça a été la Nef. Et ensuite, effectivement, on a eu en crowdfunding Mimosa et Kiss Kiss Bank Bank. Ouais. Et ces plateformes-là vont permettre le financement en début d'activité, mais aussi le refinancement. Aujourd'hui, les épiceries Vrac se développent. Elles ont besoin d'acheter des nouveaux équipements et ou d'ouvrir d'autres magasins.
Donc là, elles relancent des campagnes régulièrement dans la vie du projet.
Ou elles recontactent la Nef pour avoir des crédits. Donc effectivement, voilà, c'est créer tout l'environnement, toutes les conditions
pour, tous les outils
pour développer son activité de manière pérenne, mais que ce soit des magasins ou des fournisseurs.
Super. On a deux questions vraiment à la fin pour terminer. Ce sont des choses plutôt personnelles qu'on aime bien partager avec nos auditeurs. La première, c'est par rapport à un contenu. Contenu, c'est un mot que à chaque fois j'ai dit ça, mais j'aime pas. Donc, un livre, un podcast, un documentaire, un film, quelque chose qui t'a marqué autour de la bouffe, autour du vrac, quelque chose qui t'a permis de voir les choses différemment et que tu aimerais peut-être partager avec nos auditeurs.
Alors moi, je suis une grande fan de On va déguster.
Nous aussi.
Bonsoir Régis Gaudry, si tu nous écoutes.
On l'aura.
On salue, espère, on l'aura bientôt.
Je lance une invitation à François Régis Gaudry s'il veut faire une émission sur le vrac.
Il l'a pas encore fait. Je me posais la question parce que.
Et je serais ravie.
On va se charger de lui.
2020.
Transmettre le message.
Donc, deux invitations, une émission On va déguster les vrac et aussi qu'il soit avec nous en tant qu'invité chez Business
of Bouffe. On va organiser ça.
Voilà, ce que le vrac et la bouffe, ça va te perdre, on l'a dit. Et du coup, en découle de son émission, on va déguster et on va déguster la France. Ces deux bibles, ce sont mes deux bibles autour de la bouffe.
Ouais. On partage ce point avec toi.
On mettra les liens dans l'article, comme ça, voilà. Et un bon plan bouffe à partager à Paris ou ailleurs
Ah, alors à Paris, vous verriez mon téléphone, mon Google Maps, il est illisible avec toutes mes adresses. Si je dois en choisir une, c'est difficile. Est-ce que je peux en choisir du coup une qui n'est pas à Paris ?
Bien sûr, tu peux choisir trois si tu veux.
À Belle-Île ? Donc je passe effectivement beaucoup de temps à Belle-Île-en-Mer et j'ai un restaurant que j'affectionne beaucoup qui est le Rosavel.
D'accord.
Qui est un très... très haut niveau, et la crêperie Les Embruns à Sauzon. Donc, ces deux restaurants qui sont à Sauzon, c'est la meilleure crêperie du monde. Je m'avance à le dire.
Très bien. On va mettre les liens dans l'article avec le podcast, avec plaisir.
Voilà. Et à Paris, alors moi, j'aime beaucoup... Donc, moi, j'habite au Buttes-Chaumont et j'aime beaucoup le Pavillon du Lac qui est dans le parc des Buttes-Chaumont. Je trouve qu'en semaine, le menu midi est d'un rapport qualité-cadre-prix imbattable.
Ah, le cadre est magnifique. C'est quoi, 24 euros le menu midi?
Oui, entrée, plat, dessert. Entrée, et plat, c'est dessert. Des assiettes soignées, voilà.
Et le cadre est top.
Et alors, peut-être qu'ils devraient mettre une option végétarienne. Ça, c'est ce que je pourrais leur recommander. Et c'est là où je me suis mariée. Donc voilà. Donc je ne suis pas... J'ai un parti pris fort.
Est-ce qu'il y a quelque chose, une question qu'on ne t'a pas posée, quelque chose que tu voulais dire avant qu'on termine ces podcasts?
J'adore votre initiative.
Ah, merci.
Vraiment, quand vous m'avez écrit, je me suis dit, mais c'est génial, ce podcast sur la bouffe. J'ai été ravie d'être invitée parce que pour moi, ça va de pair. Ce que je le disais au début, quoi, le vrac, c'est le produit et ça a d'abord commencé par la nourriture, on le voit, hein, par l'alimentaire. Donc, très belle initiative. Merci de m'avoir invitée. Je crois que j'ai déjà beaucoup parlé.
Ouais, merci
à toi. Et donc, dernière chose, pardon, en 2020, passer au vrac.
Ben voilà,
super.
En tout cas, tu nous as donné envie de passer au vrac davantage. Merci beaucoup et
à bientôt.
À bientôt.
À bientôt, merci.
Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous.
Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofbouffe.com.
À très bientôt.